Vie Plus, sans ses convictions, une émission en partenariat avec Vie Plus, présentée par Fabrice Coustet.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce tout premier numéro de Vie Plus Sens et Conviction, un magazine préparé avec les équipes de Vie Plus. Alors, l'ambition de cette nouvelle émission, c'est avec nos invités, bien sûr, de parler placement, de l'utilisation de l'épargne, mais sous un angle particulier, sous l'angle du sens, car oui, on le sait, les Français veulent de plus en plus donner du sens à leur épargne, mais ce n'est pas tout. L'ambition de ce format, c'est également de prendre de la hauteur, d'ouvrir les frontières, de s'enrichir de nos différents parcours et de nos différents horizons. Alors, en pleine pandémie mondiale, les organisations, on le sait, s'interrogent. Comment progresser dans un environnement qu'on peut qualifier d'hostile? Qu'est-ce qui motive chacun pour avancer dans ce contexte? Comment fait-on pour se mobiliser, se concentrer sur son objectif, maintenir le cap, se réinventer avec cet environnement très complexe? Et puis, comment avancer en s'appuyant aussi sur son équipe? Trois grands témoins vont répondre à cette question aujourd'hui dans le plateau. Alors, côté sportif, on a le plaisir d'accueillir le skipper du Vendée Globe, Sébastien Simon, qui est avec nous en visio, puisqu'il a beaucoup de travail. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
En plateau avec moi, côté business, ça sera Jean-Philippe Robin, le directeur commercial de Arvest. Bonjour Jean-Philippe.
Et bonjour Fabrice.
Habitué des plateaux de Radio Patrimoine et également habitué Anne-France Gauthier, qu'on retrouve avec plaisir. Bonjour Anne-France.
Bonjour Fabrice.
Directeur commercial chez Vie Plus. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. C'était avant le dernier confinement. Première question, ça sera pour vous Anne-France. Pourquoi avoir décidé de créer ce magazine Vie Plus, Sens et Conviction?
Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il nous est apparu que 2020 était un accélérateur très, très, très impressionnant au niveau de la valeur, au niveau du sens qu'on donnait à la fois à sa vie et donc par effet de ricochet à son épargne. Et si c'était des tendances qu'on avait senties auparavant et au sein de Suravenir et de Vie Plus, on avait créé des mandats d'arbitrage qui étaient totalement dans cette logique-là, puisqu'ils avaient des thématiques et des convictions. Cette accélération fait que nous devons nous poser d'autres questions, l'ISR, l'ESG, le retour de l'expérience client.
Oula, ISRG, on va quand même traduire, si vous voulez bien. ISR, investissement socialement responsable. ESG, ce sont des acronymes, c'est pour les placements.
Socialement et sociétalement, on s'intéresse effectivement à la gouvernance des entreprises. Et dans cet événement qu'est la pandémie mondiale, bien évidemment, c'est un environnement qui est quand même très, très, très hostile. Et cette accélération était à noter. Et donc, on a plusieurs idées, on a plusieurs envies, mais on a envie de se dire que peut-être que la conclusion de cette émission sera qu'il faut de la confiance, de l'équipe. Mmh. La notion d'équipe est fondamentale pour pouvoir avancer dans des environnements compliqués. Et bien sûr, sans doute de l'agilité, mais je ne voudrais pas être trop en avance.
Alors, ne sautez pas tout de suite aux conclusions. On va aller découvrir ensemble, justement, comment vous avez traversé cette difficulté qui n'est pas finie, hein, cette pandémie qui affecte toutes les organisations, on l'a dit. Mais tout d'abord, je voudrais faire la part belle à notre sportif du jour, Sébastien Simon. Sébastien, donc, vous étiez à la barre il y a encore quelques mois d'Arkéa Paprec, hein, c'est le bateau sponsorisé par Arkéa. Et vous avez malheureusement, alors que vous étiez quatrième du Vendée Globe, été victime d'un choc avec un OVNI. OVNI, vous savez ce que c'est, Jean-Philippe?
Un objet flottant non identifié,
oui,
bien sûr.
Exactement. Et là, eh bien, c'est le drame. Malheureusement, vous avez dû quitter l'aventure. Au moment de l'avarie, je vous le disais, vous étiez quatrième, donc en bonne place, puis vous étiez extrêmement bien préparé. Que se passe-t-il là? Que se passe-t-il à ce moment-là pour vous? Est-ce que vous pouvez nous raconter?
Bon, je n'étais pas extrêmement bien préparé, parce que notre préparation a été quand même compliquée. On a fait face à pas mal de situations complexes, mais... Voilà, à partir du moment où j'ai tapé cet objet, je me suis bien rendu compte que c'était pas tout à fait anodin et que probablement j'allais devoir renoncer au classement final du Vendée Globe. Mmh. En tout cas, à ce moment-là, j'ai quand même gardé à l'esprit que j'avais à cœur de terminer cette course parce que c'est un rêve d'enfant, tout simplement.
Vous disiez à l'époque, je vais peut-être pouvoir aller réparer et reprendre la course.
Évidemment, parce que c'est le travail de toute une équipe, c'est énormément, enfin, l'assemblage du bateau, ça a représenté 35 000 heures de travail à peu près pour une équipe de 35 personnes, donc c'est quand même Voilà, je suis peut-être parti tout seul sur les océans, mais en tout cas, j'ai emmené beaucoup de monde avec moi. Et ça, c'est sans compter tous les collaborateurs de mes sponsors. Donc, voilà, pour eux, pour mes proches et pour mon équipe, j'avais à cœur de terminer ce Vendée Globe. C'était déjà, je pense que terminer une course pareille, une aventure pareille, c'est déjà une victoire en soi. Donc, forcément, avec un petit peu de déception. Mais après, en fait, quand je me suis rendu compte de l'ampleur des dégâts, de la voie d'eau qui a causé cet impact sur mon bateau, j'ai pensé qu'à une seule chose sur le moment, c'était d'abord de sécuriser mon bateau. Voilà, donc j'ai fait face à tout ça. Et après, en travaillant avec mon équipe, avec l'organisation, etc., je me suis vite rendu compte que les dégâts étaient trop importants. Il fallait se rendre à la réalité. Et voilà,
Ouais, il
j'ai
fallait, je
pas eu
crois.
d'autre choix que d'abandonner.
Il fallait découper le foil, hein, c'est ça, c'est une pièce quand même qui, bah, sur vos bateaux, qui sont quand même appelés les Formule 1 de la mer, hein, ces bateaux immenses, c'était trop compliqué pour le faire tout seul ou même le faire bah, dans les bonnes conditions.
Oui, ce foil, pour vulgariser un petit peu, c'est le même principe qu'une aile d'avion, sauf qu'elle fonctionne dans l'eau. C'est réellement ce qui nous permet de donner de la puissance au bateau archéa à peu près, qui est de le faire littéralement voler ou semi-voler. Donc c'est la première génération de bateaux qui est comme ça. Et je suis hyper fier de faire partie de cette génération de bateaux innovants, volants et tout ce qu'on veut. Maintenant, voilà, ça fait partie des règles du jeu, hein, c'est comme ça. C'est sûr que sur le moment, c'est beaucoup de déception, mais en fait, c'est avec peu de regret parce que j'ai quand même eu la chance de vivre un bout de mon rêve. Et puis au final, ça ne fait que renforcer ma détermination pour être présent au Vendée Globe 2024.
Ouais, on parlait d'OFNI, justement, vous savez finalement ce que vous avez tapé, c'était pas sur les radars. Comment ça se fait que vous l'ayez pas vu?
Non, je n'ai pas vu. J'étais en train de dormir à ce moment-là. Donc, j'ai senti l'impact parce que j'ai été un peu propulsé vers l'avant et puis j'ai entendu le carbone du bateau se déchirer. Et tout de suite, j'ai senti que le foil, donc cette aile d'avion, bougeait énormément dans le bateau. Et j'ai tout de suite vu que l'eau était en train d'envahir un compartiment assez important. Alors après, on a des outils à bord de détection d'objets. On a une caméra thermique en tête de mât, une caméra visible, on a un radar, etc. Mais sauf que les conditions étaient telles que ces appareils n'ont pas suffi à détecter cet objet. Après, c'est voilà, ça aussi, ça fait partie de l'innovation et ça demande encore du temps pour être développé. C'est de l'intelligence artificielle, hein. On est des vrais laboratoires techniques à bord de nos IMOCA. Donc, on essaie au fur et à mesure, d'année en année, de diminuer cette part d'aléatoire qu'il y a dans nos courses. Mais malheureusement, je ne suis pas le premier
Ouais.
et je ne serai probablement pas le dernier. Mais on peut espérer qu'un jour, on arrive à diminuer cette part d'aléatoire et qu'au final, on rencontrera de moins en moins ce genre de cause d'abandon.
Eh oui, on l'a bien vu, hein, surtout cette édition où il y a eu ben voilà, des abandons, des sauvetages. Enfin, c'était vraiment riche en émotions. Et puis avec, on l'a dit, hein, des bateaux qui vont toujours plus vite et des records qui tombent les uns après les autres avec un finish extraordinaire. Jean-Philippe Robin, alors bon, vous n'avez peut-être pas été réveillé en pleine nuit avec une voie d'eau.
Ouais, je voudrais pas faire un parallèle avec nos aventures. On ne risque pas notre vie sur la mer comme
Néanmoins,
Sébastien.
il y a des similitudes, notamment Sébastien nous parlait de s'appuyer sur son équipe. Là aussi, l'équipe, finalement, et Anne-France, vous allez nous le dire dans un instant, vous en avez été privé tout à coup. On se remet en arrière à partir du 16 mars où le chef de l'État nous dit c'est le confinement, situation complètement inédite. On ne voit plus ses équipes et pourtant, et il faut que le bateau, sinon la galère, continue à avancer.
Oui, tout à fait. Alors, voilà, je ne voudrais pas me lancer, mais je vais quand même le faire un petit peu dans le parallèle avec ce qu'a pu vivre Sébastien. Hein. On est effectivement, nous aussi, on a, comme beaucoup d'entreprises, on a touché un objet non identifié que l'on a appelé Covid. Et finalement, tout a été bousculé en très très peu de temps. Maintenant, comme le disait aussi Sébastien, on s'appuie sur des équipes. Et dans l'équipe, le travail d'agilité est très 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 important. Et dans nos équipes, chez Hervest et j'imagine comme dans l'équipe de Sébastien, on a ce que l'on appelle nous des avions de chasse. Alors désolé pour la métaphore qui n'est pas liée à la voile, mais vraiment des leaders d'équipe qui tirent et qui tirent haut l'ensemble de l'entreprise, donc qui conditionnent aussi, qui donnent un rythme à cette société. Sébastien dans son équipe, Vincent Rioux qui qui est directeur technique et qui a gagné le Vendée Globe, qui a gagné deux fois la Transat Jacques Vabre, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on a de la viande de chasse aussi dans la voile. Mais chez nous, c'est pareil. On a aussi des personnes qui sont talentueuses et qui nous amènent finalement à changer, à modifier très rapidement. Et c'est un élément qui rejoint l'agilité dont parlait Anne-France. Nos configurations, nos modes de fonctionnement pour délivrer. Alors nous, on fabrique du logiciel, donc on délivre des lignes de code, mais ça sous-entend de changer très très rapidement le mode de fonctionnement pour garder une vraie proximité avec l'équipe, ça c'est essentiel.
Alors lignes de code qui sont ensuite, qui créent des logiciels qui sont utilisés par les conseillers en gestion de patrimoine, les professionnels de la finance, pour in fine leurs clients qui, en pleine tourmente aussi, on se souvient, l'année boursière a été assez compliquée, avaient besoin de soutien. Donc on a l'impression que cette chaîne Anne-France, elle était hyper importante à garder ce contact, même si à un moment on sature avec les Zooms, les Teams, les visios et le téléphone, c'était très important de garder ce contact.
Je pense qu'on sature, mais on sature parce qu'on a le choix de pouvoir saturer. Et en fait, je pense qu'effectivement, comme le dit tout à fait bien Jean-Philippe, il était important d'avoir des solutions immédiates et toute la génération des CTMU avant, on voit bien hein, dans ces marchés extrêmement volatiles et puis surtout dans ces obligations d'adaptation extrêmement contraignantes, sont des gens qui peuvent pas s'adapter, bien évidemment. Et bien sûr, on sature, mais on a la chance de pouvoir se raccrocher à des choses. On a des références dans la journée, on a des moyens de s'informer, on a des moyens de se former, et donc de faire que globalement, même si l'année a été très difficile, on ne se dit pas en fin d'année, bah, c'est une année pour rien. Mmh. Et ça, c'est fondamental. Ça paraît idiot, mais rien que laisser le choix aux gens de venir ou non à un Zoom, bah, c'est déjà faire autre chose que subir une contrainte. Et dès lors qu'il choisit, il va choisir son thème. Et c'est déjà des petits choix qu'il peut faire dans cette année où finalement la liberté de choisir a été extrêmement difficile.
Sébastien, Simon, justement, on parlait là, bah, de résilience, de remonter en selle. C'est pas évident pour vous, puisque je crois que le bateau finalement est rentré en cargo. Vous, comment vous faites face justement à cette situation, à cette déception. J'ai revu les images en préparant le sujet. On voit le 1er ou le 2 décembre quand vous décidez d'arrêter. C'est vrai que ça doit être un déchirement. Comment on rebondit après un tel événement? Comment on se dit, bah voilà, le prochain Vendée Globe, c'est dans 4 ans. Et comme une Olympiade, il va falloir se repréparer et remonter en selle.
Oui, c'est exactement ça. Hein. C'est comme une Olympiade. Donc à chaque fois qu'on se relance dans un projet tel que celui-là, bah, c'est 4 ans de sacrifice, de travail. Et en fait, sur finalement 4 ans de travail, sur un temps relativement court, même si c'est quand même la course et l'événement sportif le plus long du monde. Maintenant, c'est sûr que sur le moment, c'est toujours un peu de déception. Voilà, on a du mal à prendre du recul. Et puis après, j'ai très vite relativisé, parce que j'ai quand même eu la chance de rentrer pour les fêtes de fin d'année avec ma famille et mes proches. Voilà, donc ça m'a quand même beaucoup remonté le moral. Et puis j'ai toujours eu le soutien de mes partenaires et des collaborateurs. Et ça a été d'une grande aide, parce que dès le début, en fait, ce qui m'a motivé, c'était de retravailler sur la suite, me concentrer sur l'avenir, arrêter de regarder le passé. Et c'est ce qui m'a permis aussi de, maintenant, quand j'en reparle, c'est de me dire que j'ai pas beaucoup de regrets finalement. Même si, voilà, j'aurais aimé aller au bout de cette aventure, j'ai quand même eu la chance de vivre un morceau de mon rêve. J'ai vécu une expérience incroyable. Hein. Il y a eu le sauvetage de Kevin, il y a eu la passer autant de jours en mer sur un bateau de haute technologie. C'est aussi, je me suis donné au maximum et mon équipe aussi, donc voilà, je peux que remercier tout le monde. Et au final, je pense que le plus beau cadeau que je puisse faire à tout le monde, c'est d'être déterminé pour revenir dans 4 ans et refaire en quelque sorte ce sacrifice, parce que c'est un sacrifice, oui et non, parce que ça reste aussi ma passion et j'ai beaucoup de chance de faire ça.
Kevin, c'est bien sûr Kevin Escoffier. Là, vous êtes dérouté pour aller lui prêter main forte. Anne-France, une question pour notre skipper.
Oui, j'avais une question, Sébastien. Quels sont les ressorts que vous utilisez lorsqu'il y a cette déception? Quels sont les ressorts que vous arrivez à faire partager à votre équipe? Et quels sont les ressorts que vous pouvez mettre en œuvre pour que chacun se reprépare assez rapidement au futur environnement hostile que sera bien évidemment le prochain Vendée Globe?
C'est ça qui est particulier, c'est que je suis un peu l'intermédiaire entre à la fois les partenaires qui ont ce pouvoir décisionnaire de vouloir continuer ou non, et cette équipe qui est derrière moi, qui compte sur moi, qui n'est pas forcément en relation directe avec les partenaires, donc finalement qui n'a pas beaucoup de pouvoir dans, on va dire, leur avenir. Je ne sais pas comment utiliser le bon terme, mais voilà, donc je sais qu'ils comptent sur moi Et déjà, j'ai quand même énormément, moi aussi, compté sur eux pour essayer de trouver des moyens de réparer, etc. Parce que c'est eux les grands techniciens, c'est eux qui maîtrisent toute la construction du bateau, etc. Parce que surtout en bateau, on a besoin de faire appel à de multiples compétences, que ce soit l'électronique, la mécanique, l'hydraulique, le composite, le matelotage, tout ce qu'on veut, l'informatique. À un moment, on peut être compétent dans pas mal de domaines, mais on ne peut pas être expert. Donc, moi, j'ai eu besoin d'eux et de leur montrer que voilà, j'avais besoin de leur soutien et j'avais besoin de leur aide pour essayer de réparer au mieux et sécuriser le bateau comme il le fallait. Et après, forcément, une fois que la décision est prise d'abandonner, dans mon cas, même si c'est compliqué, ben, tout de suite, j'ai commencé à. D'abord, à les remercier du travail qu'ils avaient accompli et leur dire que, voilà, comme je l'ai dit, que j'étais déterminé à revenir en 2024 et que j'allais d'ores et déjà travailler sur la suite avec mes partenaires pour leur assurer à eux aussi un avenir. Et encore une fois, c'est la loi du sport, hein, donc le sport, il y a cette petite
Bien
part
sûr.
d'aléatoire. Un coup, ça passe, un coup, ça passe pas. Souvent, c'est un travail de longue haleine, mais c'est comme dans tous les milieux de l'entreprise, hein. Je pense que c'est jamais un long fleuve tranquille. On peut préparer les projets de la meilleure des manières et au final ne pas être maître de ce qui va se produire. Après, on peut essayer de mettre toutes les clés avec soi, essayer d'aligner les étoiles comme on le peut pour que les choses se passent du mieux possible.
Ouais, on parle d'agilité, on sent qu'il faut cette réactivité. Jean-Philippe, vous en avez parlé. Il y a aussi une autre chose, Sébastien, c'est la vision, hein. Il faut être visionnaire. Est-ce que justement, cette expérience, même ces quelques jours passés en mer, vous servent pour améliorer et déjà préparer comme une feuille de route pour les prochaines échéances?
Tout à fait. Enfin, c'est 26 jours ou 28, ou j'avoue que j'ai pas retenu le chiffre exact, mais passer en mer, ça reste quand même une expérience incroyable. Je suis quand même un jeune marin et on dit toujours que la course au large est un sport d'expérience, qu'il faut avant tout se connaître et connaître son bateau. Mais aujourd'hui, c'est sûr que d'un point de vue sécurité, d'un point de vue performance, d'un point de vue connaissance de soi, je pense énormément progresser et je me servirai de ça à l'avenir, ça c'est certain. Après, il faut aussi une petite part d'insouciance parce qu'à un moment, quand on se lance dans un projet, il faut le courage d'y aller, mais ça c'est vrai dans tous les projets, hein, que ce soit des projets sportifs ou entrepreneuriaux. Donc, une fois que voilà, on a cette petite part d'insouciance qui nous permet de nous lancer, et puis après, on y met toutes les ressources et toute l'énergie à disposition pour y arriver.
Ouais, Jean-Philippe, il y a on le sent hein, évidemment ce goût du challenge. Alors, on l'a en sport, mais il faut aussi essayer de l'insuffler dans son équipe au quotidien. Ça, c'est extrêmement important.
Oui, c'est fondamental. On retrouve des valeurs d'engagement, je dirais même des valeurs de passion, hein. Il faut qu'on soit passionné pour ce que l'on fait. Alors nous, on est passionné pour nos
Passionné pour
logiciels.
le code.
On est peut-être avant tout passionné pour nos clients. Je pense que ça,
Ouais.
c'est un élément que je pense Anne France va retrouver. Si on se dépasse comme on peut essayer de le faire en permanence, c'est pour délivrer quelque chose qui soit de qualité. Ça rejoint derrière des principes même d'agilité, hein, dans le développement agile du code et du logiciel. Mais avant tout, ça repose sur des équipes qui sont passionnées, qui sont motivées par ce qu'elles font. Et c'est ça qui nous permet finalement d'avancer, y compris dans la tournante. Après, chaque expérience nous permet d'avancer. On s'est, nous, finalement, très, très bien préparés au Covid et au fonctionnement à distance qui s'est imposé à nous du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain, on est passé dans cette organisation-là. Et pourquoi on a réussi à le faire aussi rapidement, c'est qu'on a entre guillemets tiré profit de l'expérience précédente que l'on avait eue. L'expérience précédente, c'était les grèves sur la réforme des retraites, où finalement on a été aussi assez perturbé sur ces éléments-là. Et on s'est dit, bah, finalement, il faut qu'on change complètement nos organisations techniques pour permettre de travailler complètement à distance. Et cet accélérateur que l'on a réussi à prendre au moment de la retraite, on en a vraiment profité finalement lorsque la pandémie nous est tombée dessus.
Décision stratégique qui s'est imposée, hein, comme beaucoup d'organisations. On précise, Viplus et Harvest, hein, c'est une longue histoire puisque vous travaillez avec les logiciels l'un et l'autre et même vous co-créez quelque part des produits ensemble et des solutions pour les clients.
Alors, on est effectivement en pleine co-création avec Harvest. Avec un objectif qui est le retour de l'expérience client qui soit le plus positif possible. Alors nous, c'est un petit peu moins magnifique que ce que fait Sébastien, bien évidemment. Ce sont des petits challenges au quotidien. Hein. Ce n'est pas 4 ans pour un magnifique challenge relayé par la télévision, avec une expérience humaine extraordinaire. Nous, c'est au quotidien, effectivement, des petits challenges. On a beaucoup co-créé avec Harveuse depuis 2 ans. Et on a le challenge de faire en sorte que ces co-créations continuent à vivre en fonction de l'évolution des lois, des réglementations. Pour autant, c'est un petit peu vrai ce que disait Sébastien tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un challenge, il faut le porter, il faut être courageux, il faut un petit peu partir contre vents et marées pour arriver à faire imposer nos idées sur des plans de charge informatiques qui n'ont pas le temps, sur des tas de choses au quotidien. Mais il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de passion et des équipes qui se font confiance.
Ouais, la vision là, qu'on peut avoir, on parlait d'être visionnaire, est-ce que la pandémie rebat les cartes? Est-ce qu'il y a des accélérations? On parlait du digital en particulier. Est-ce qu'il y a d'autres options fortes qui sont prises en ce moment?
Oui, tout ce qui est sens à l'épargne. Tout à fait, tout à fait. Donc le digital, nous avions la chance d'avoir un groupe qui avait été très, très visionnaire, puisque tout est digital chez Viplus. Mais effectivement, le sens à l'épargne qu'on avait un petit peu commencé en 2018 et 2019, là, prend de l'ampleur. Et puis, sans faire de teasing, on va y répondre très, très vite.
Bon, on aura l'occasion d'en reparler dans les différentes émissions. Et pour chez Harveust aussi, il y a eu ça a été un accélérateur, finalement, cette crise.
Alors, ça a été, je ne sais pas si ça a été un accélérateur, en tout cas, ça a été un révélateur de l'importance d'être sur le terrain, de l'importance d'être en proximité vis-à-vis de nos clients, donc les clients CGP, les professionnels du patrimoine au sens large, et de les accompagner du mieux possible pour leur mettre à disposition justement des outils de plus en plus digitaux, de plus en plus facilitant leur quotidien. Et ça, c'est une accélération effectivement très forte.
Sébastien, Simon, il nous reste quelques minutes. Là, justement, on voulait savoir. Alors, on a bien compris, il est loin de se décourager. Quelles sont les prochaines échéances? Qu'est-ce que vous préparez en ce moment? Je crois qu'il y a des courses ou des entraînements à venir, ou il faut encore réparer le bateau?
Alors là, on répare encore le bateau. C'est assez long, donc c'est mon équipe qui s'en charge. On espère remettre le bateau à l'eau dès le mois d'avril. Et de là, je vais m'entraîner le plus vite possible pour essayer d'être performant au départ de la Transat Jacques Vabre en fin d'année. Donc, c'est une course en double sur laquelle on va traverser l'océan Atlantique. Donc, je l'ai déjà fait 6 fois. La traversée de l'Atlantique, pas la Transat Jacques Vabre, ce sera ma 2e participation. Et j'espère qu'on pourra se fixer un objectif de podium, voire peut-être mieux. C'est ambitieux, mais voilà, on va s'y préparer. Et puis, il faut voir aussi qu'on n'a malheureusement pas eu le temps de faire participer les partenaires, les faire naviguer l'année dernière. Et donc, moi, j'ai à cœur d'essayer de me rattraper cette année. Donc, ça risque de nous prendre un petit peu de temps. Mais je pense que c'est essentiel de les faire participer aussi, parce que c'est quand même grâce à eux que mon équipe et moi pouvons vivre nos rêves. Donc, voilà.
Bon, en tout cas, on voit que le champagne est prêt pour fêter les prochains succès là derrière vous. On vous souhaite évidemment de le sabrer très, très prochainement. Quelle formidable aventure, Anne-France, de pouvoir comme ça être représentée par des
sportifs. C'est un phare dans la nuit, Sébastien, bien sûr, au-delà de la métaphore marine, mais c'est un phare dans la nuit, bien sûr.
Ouais, c'est vraiment extra. Ça donne la portée, je trouve, dans les autres organisations. Il y a un vrai lien qui se passe, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, un grand merci, Sébastien Simon, donc skipper d'Arkea. On vous suivra dans les prochaines aventures, et on espère dans les prochains succès. On arrive au terme de cette émission, agile, visionnaire, engagé. Voilà vraiment ce qu'on peut retenir comment traverser la tempête. On a l'impression que ce sont les mots clés. Et puis au-delà des mots, effectivement, les équipes, le rôle des équipes aussi, des hommes et des femmes, bien évidemment, qui sont là, qu'il faut encourager, qu'il faut supporter, même quand ça va pas, parce que, comme disait le poète, il n'est de richesse que d'hommes, bien évidemment. Merci Jean-Philippe Robin.
Merci.
Et à très bientôt, directeur commercial d'Harveust. Merci Anne-France Gauthier.
Merci beaucoup. Confiance et solidarité également.
Ouais, ça fait pas mal de jolis mots. Un grand merci à notre équipe pour avoir préparé cette émission. On se donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouveau numéro de Vie Plus, Sens et Conviction.
Vie Plus, Sens et Conviction, une émission en partenariat avec Vie Plus, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et toutes les plateformes de streaming.